RFI, 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. L'avocat de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison ferme, dénonce une parodie de justice. Emprisonné depuis novembre, l'écrivain est au centre d'une crise diplomatique entre Paris et Alger. Le report du concert Solidarité Congo en soutien aux victimes de la guerre dans l'Est de la RDC. Il était prévu à Paris le 7 avril, journée internationale de commémoration du génocide du Rwanda. Les inquiétudes de la communauté internationale après l'arrestation du vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, par les forces loyalistes au chef de l'État Salva Kiir. Le fragile accord de paix est en danger. Le sommet nutrition pour la croissance à Paris, la France annonce une contribution de 27 milliards de dollars pour lutter contre la malnutrition. À suivre les sports et puis la musique avec la sélection de DJ Facemaker, alias Hervé Mandina. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenue. Il était accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire algérien, à la sûreté de l'État et à la stabilité des institutions. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a donc été condamné ce matin à 5 ans de prison ferme par un tribunal algérien. Son avocat, Maître François Zimeret, n'a pas pu assister au procès, mais il dénonce un simulacre de justice.
C'était un procès qui n'a de procès que le nom. Parce que sa défense était interdite, que je n'ai pas pu me rendre auprès de lui, et qu'un procès dans lequel on ne peut pas se défendre, où l'avocat ne peut pas avoir accès au dossier, et le client à l'avocat, encore une fois, n'a rien à voir avec l'idée que l'on peut se faire de la justice. Cette condamnation, pour moi, trahit l'idée même de justice. Moi, ce qui me frappe, c'est que Boualem Sansal est détenu depuis 120 jours, qu'il a eu 20 minutes de procès, qu'il est condamné à 5 ans de prison pour avoir dit ce qu'il pense. Donc je suis évidemment sous le choc, comme tous ceux qui croient en la liberté et la liberté de dire ce qu'on pense et ce que l'on croit juste, à tort ou à raison, ne devrait jamais envoyer quelqu'un en prison. Nous avons saisi les Nations Unies d'une plainte pour détention arbitraire car l'Algérie a violé les traités internationaux qui consacrent les libertés fondamentales. J'appelle le président algérien à faire preuve d'humanité.
Voilà donc l'avocat de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, c'était François Zimeret. Et puis à Paris, le parquet financier a requis ce jeudi 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy au procès des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. 5 ans d'inéligibilité également et 300 000 euros d'amende ont également été requis contre lui. L'ancien président est soupçonné d'avoir noué un pacte de corruption avec Muammar Kadhafi, l'ancien dictateur libyen, pour qu'il soutienne le financement de sa campagne. Nicolas Sarkozy a réagi sur son compte X. Il a dénoncé l'outrance, je cite, de la peine réclamée. Au Mali, Étienne Fakaba Sissoko est libre. L'universitaire malien a quitté ce matin la prison de Kenyorubu. C'est à 75 km de Bamako. Après avoir passé un an en détention, la publication d'un livre dans lequel il qualifiait de propagande la communication du gouvernement malien de transition lui avait valu d'être condamné en mai 2024 pour atteinte au crédit de l'État. Son avocat ainsi que des organisations de défense des droits humains n'ont cessé de dénoncer un procès politique destiné à faire taire une voix critique. Étienne Fakaba Sissoko est d'ailleurs libre, mais sa bataille judiciaire, David Bachet, n'est pas terminée pour autant.
Après avoir quitté sa cellule, Étienne Fakaba Sissoko a réaffirmé son engagement pour la liberté d'expression et le débat académique. Après une année de détention, il est rentré chez lui. Son avocat, Maître Ibrahim Marouf Sako, peut enfin se réjouir.
Enfin, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Étienne Fakaba Sissoko a regagné les siens, sa femme, ses enfants, sa maman. Et il va pouvoir désormais regagner ses étudiants à la faculté des sciences économiques de Bamako où est véritablement sa place.
Étienne Fakaba Sissoko avait écopé d'une année de prison ferme qu'il vient de purger, mais aussi d'une année avec sursis, une menace qui continue de planer. Le chercheur avait été condamné pour atteinte au crédit de l'État, injure et diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique après la publication d'un livre sur la propagande du gouvernement malien de transition, dans lequel il estimait notamment que les les vidéomènes, activistes utilisés par le pouvoir, décrédibilisaient la parole publique. Étienne Fakaba Sissoko souhaite désormais être innocenté, Maître Sakho.
On a un recours qui n'est pas épuisé. Nous pensons que tôt ou tard, justice sera faite parce que c'était des expressions d'opinion, un travail universitaire. Donc, nous espérons que, à l'issue de l'examen de ces recours, Étienne sera blanchi.
Outre sa peine de prison, Étienne Fakaba Sissoko avait aussi été condamné à verser 3 millions de francs CFA, près de 4 600 euros, de dommages et intérêts à l'État malien.
David Bachier, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, il est 22h35 à la pendule universelle.
RFI.
Une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo, comprenant le ministre de la Défense et la ministre des Affaires étrangères, s'est rendue en Afrique du Sud. Une visite destinée à renforcer les relations entre les deux pays, alors que la RDC fait face à l'offensive de l'AFC M23 dans l'Est. Valentin Hugues.
Aux côtés de son homologue sud-africain, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kawikamba-Wagner, rappelle l'importance de la solidarité entre Kinshasa et Pretoria.
Dans l'une des périodes les plus difficiles pour notre pays, une période qui met à l'épreuve nos relations et nos alliances, vous êtes restés fermement et indéfectiblement à nos côtés, malgré les pertes tragiques que votre pays a subies.
Référence aux 14 soldats sud-africains morts au combat lors de la prise de Goma en janvier. Certains étaient déployés dans le cadre de la mission régionale de maintien de la paix de la SADC. Depuis, la SADC a décidé le retrait progressif des troupes en faveur de plus de dialogue. Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères sud-africain.
Ce retrait ne signifie pas qu'on abandonne la RDC. La décision a été prise par un organisme multilatéral. En tant qu'Afrique du Sud, nous continuons à travailler avec la RDC au niveau bilatéral pour approfondir nos relations sur divers aspects qui comprennent la coopération militaire.
Et la coopération militaire, c'était l'enjeu de cette autre réunion entre les ministres de la Défense congolais et sud-africains, avec pour objectif de renforcer les capacités de défense stratégique entre les deux pays. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et sur le terrain, c'est la fin d'une trêve de courte durée entre les forces armées congolaises et le mouvement rebelle AFC M23 soutenu par Kigali. L'armée congolaise accuse ce groupe armé de s'être renforcé à la fois en hommes et en matériel à Walikale et dans le sud Kivu. Ce matin, la tension est même montée d'un cran. Des frappes ont ciblé l'aérodrome contrôlé par les rebelles. La situation humanitaire, elle continue de se dégrader. Le principal hôpital de Walikale continue de fonctionner, mais dans des conditions très difficiles, Patient Ligodi.
La cité est quasiment vide. La majorité des habitants ont fui et ceux qui restent vivent dans une forte incertitude. Dans cet hôpital, environ une quarantaine de patients sont encore présents. Ils sont suivis par une équipe médicale réduite, toujours sur place, malgré les conditions très tendues. Les équipes de Médecins Sans Frontières, MSF, habituellement actives dans cette zone, sont actuellement confinées à leur base. MSF parle d'une situation volatile, avec des mouvements en ambulatoire fortement réduits. L'établissement continue de fonctionner, mais les difficultés s'accumulent. Toutes les lignes de ravitaillement sont bloquées. Le personnel médical resté sur place ne peut plus sortir et les soignants sont contraints de rationner les traitements. On ne sait pas combien de temps on pourra tenir dans ces conditions, confie un médecin sur place. En parallèle, MSF renforce sa présence à Lubutu, à 200 km à l'ouest de Walikale Centre. Une équipe venue de Kisangani a été dépêchée sur place pour évaluer la situation et voir s'il est nécessaire de prévoir une intervention d'urgence pour les déplacés récemment arrivés de Walikale Centre.
Et puis en France, le concert Solidarité Congo, en soutien aux victimes de la guerre dans l'Est de la RDC et qui était initialement prévu le 7 avril, est finalement reporté. Wally Diallo, les organisateurs n'ont pas encore fixé de nouvelles dates, mais le préfet de police de Paris leur avait demandé de reporter ce concert, faute de quoi, eh bien, il serait interdit.
C'est avec regret mais avec responsabilité que nous annonçons le report du concert, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Une réponse à l'ultimatum donné par le préfet de police de Paris plus tôt dans la journée. Laurent Nunez avait expliqué qu'en cas de maintien du concert le 7 avril, il lancerait une procédure d'interdiction. Depuis plusieurs semaines, des associations rwandaises demandent ce report au vu de la charge symbolique du 7 avril, journée de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Face à la polémique, les organisateurs du concert ont donc rappelé leur position. Nous affirmons avec force que notre démarche n'a jamais eu vocation à heurter qui que ce soit, ni à s'opposer à d'autres combats mémoriels. Gabriel, a insisté l'équipe de Solidarité Congo. Guido Besbar, Gims ou encore Youssoufa sont en tête d'affiche pour l'événement, organisé au profit des enfants victimes du conflit de l'Est de la RDC. Pour l'instant, pas encore de date pour le concert. Les organisateurs ont toutefois précisé que ceux qui ne pourront y assister seront remboursés.
Merci, Walid Diallo. Au Burundi, le journal Yaga Burundi, tenu par de jeunes blogueurs réputés pour leur indépendance, a été suspendu ce jeudi par le Conseil national de communication. C'est un organe qui est nommé par le pouvoir et qui régule les médias. Alors officiellement parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas retrouvé l'acte d'agrément dans ses archives et qu'il considère que celui déposé au CNC est donc un faux. Mais les responsables de Yaga Burundi, qui ont appris la décision par les réseaux sociaux, se sont dit surpris en rappelant que l'association avait bel et bien déposé l'agrément en son temps. À Paris, le sommet Nutrition for Growth ou Nutrition pour la croissance a été marqué ce jeudi par plusieurs annonces d'engagement financier pour lutter contre la faim. La France a notamment promis 27 milliards de dollars, soit l'équivalent du montant mobilisé lors du précédent sommet qui s'est tenu à Tokyo en 2021. Mais dans un contexte de crise internationale, cette promesse sera-t-elle tenue, Christina Okello?
Plusieurs bailleurs ont répondu présents, 9,3 milliards de dollars promis par la Banque africaine de développement, 5 milliards pour la Banque mondiale et 3,4 milliards pour l'Union européenne. À cela s'ajoutent 250 millions de dollars annoncés par 4 fondations philanthropiques, dont Gates et Alan Krug, pour améliorer la nutrition des femmes enceintes. Face au retrait soudain de l'aide américaine, ces annonces redonnent de l'élan à un combat souvent relégué au second plan de développement. Le programme alimentaire mondial appelle le secteur privé à prendre le relais pour combler le fossé entre besoins croissants et financement en baisse. Le sommet s'est aussi distingué par la voix de certains pays du Sud. Le roi de Lesotho a mis en garde contre les effets du changement climatique sur l'agriculture, appelant à investir dans des semences plus résilientes. La première dame du Brésil, elle, a exhorté d'autres pays à rejoindre l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté qui réunit déjà 70 pays. Dans tous les discours, on retrouvait le même message. Intégrer la nutrition dans les politiques publiques n'est plus une option, c'est une urgence mondiale.
Christina Okello, 22h42 en temps universel, le dossier d'Afrique Soir consacré au Soudan du Sud avec l'inquiétude des Nations Unies après l'arrestation du vice-président Riek Machar, placé hier en résidence surveillée par les forces loyalistes au chef de l'État Salva Kiir. L'ONU parle d'une situation alarmante qui rapproche encore plus le pays d'une nouvelle guerre civile. La situation a été rarement aussi tendue que depuis la fin de la guerre civile et la signature d'un accord de paix en 2018. Et cette arrestation survient après de longues semaines de tensions. Paul Lorgerie.
Un communiqué du Mouvement populaire de libération du Soudan en opposition, parti de Riek Machar, nous informe que, hier soir, vers 21h45, des hommes lourdement armés, conduits par le ministre de la Défense et le chef de la Sécurité nationale, se sont introduits dans la résidence du premier vice-président pour l'arrêter. Pour Oyet Nathaniel, vice-président du parti, cette arrestation est une tromperie et un manque de volonté politique d'apporter la paix et la stabilité dans le pays. Et d'ajouter que l'accord de paix de 2018 est désormais abrogé. Aucun débordement n'a pour autant été enregistré dans les rues de la capitale Djouba ce jeudi. Les accès à la maison de Riek Machar sont bloqués par des forces de sécurité appuyées d'un véhicule blindé et la sécurité autour du Parlement semble avoir été renforcée. Si la raison du placement en résidence surveillée du vice-président est encore inconnue, elle intervient après les attaques mardi et mercredi de deux camps d'entraînement de la branche armée du parti de Riek Machar, dont les éléments doivent normalement être intégrés à l'armée régulière sud-soudanaise. Des frappes qualifiées de terroristes par le parti d'opposition. Alors que l'Union africaine a appelé les parties prenantes à engager un dialogue constructif, le président kényan William Ruto a annoncé l'envoi d'un médiateur pour, je cite, « tenter une désescalade ».
Et nous allons écouter Marc Lavergne, chercheur émérite à Sciences Po, spécialiste du Soudan du Sud, pour lequel cette arrestation menace l'accord de paix.
En tout cas, c'est le résultat qui va arriver, mais ça laisse de côté tous les autres peuples qui constituent le Sud-Soudan, et ça ne résout absolument pas le problème de fond de ce pays. Moi, je me souviens de John Garang, que j'ai bien connu, qui était le leader du mouvement de libération, non pas du Sud-Soudan, mais de l'ensemble du Soudan. Hein. C'était, dans sa perspective, deux Soudans, ça voudrait dire deux problèmes, et on en est là aujourd'hui.
Qui est responsable, selon vous, de l'épisode de tension actuel? Les deux camps s'en rejettent la responsabilité.
Je crois que le problème fondamental, c'est la guerre au nord qui a coupé la possibilité d'exporter du pétrole. Et le pétrole, c'est la seule ressource du Soudan. Mais comme le pipeline a été coupé, c'est terminé. Et donc, le système sud-soudanais fonctionnait beaucoup sur une distribution de prébande à partir de cette ressource pétrolière. Et c'est ça qui provoque des crises à l'intérieur des deux groupes armés qui avaient été fusionnés en quelque sorte, mais qui ne recevront plus de salaire, ne recevront plus aucun moyen, eh bien retournent vers une activité de prédation.
Certains s'inquiètent d'un soutien du général Bourane aux milices Nouer en réaction au soutien apporté par Salva Kiir aux milices FSR du général Hemeti. Est-ce que le conflit soudanais est en train de s'exporter au Soudan du Sud?
Ben tout à fait, hein. Chacun choisit son camp, parce que le gouvernement sud-soudanais a servi un peu de base de repli aux forces, des forces de soutien rapide. Et d'un autre côté, du coup, le gouvernement de Khartoum, le gouvernement militaire de Khartoum, a soutenu les milices Nouer, hein, du mouvement SPLM-IO de Riek Machar. Vous avez un jeu, finalement, de miroir entre les deux pays, hein, qui font que, ce que disait aussi l'accord de paix, les Sud-Soudanais sont toujours des Soudanais, finalement. Hein.
Dernière question, Marc Laverne. Qu'est-ce qui pourrait encore faire baisser la tension aujourd'hui au Soudan du Sud?
Ça serait la construction d'un État. On a un pays, mais on n'a pas construit d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure administrative, de structure politique qui inclut la population avec des objectifs de développement. C'est un État failli dès le départ. Et on s'aperçoit que, finalement, d'autres États dans la région ne vont pas beaucoup mieux. Alors, l'Union africaine essaye d'intervenir sur ce dossier. L'Union aussi des pays de la Corne de l'Afrique également, mais avec des moyens assez limités. Et c'est un conflit qui, malheureusement, est encore un peu sous l'écran des grandes puissances qui sont occupées ailleurs.
Le chercheur Marc Lavergne avec Nicolas Sûr dans Afrique Midi. Le football, et c'est désormais confirmé, la CAN 2025 des moins de 20 ans n'aura pas lieu comme prévu en Côte d'Ivoire le mois prochain. La CAF vient de confirmer le retrait du pays des éléphants de son organisation en raison, je cite, de circonstances imprévues. La CAF qui, dans la foulée, a annoncé que c'est l'Égypte qui reprend le flambeau et qui accueillera donc la CAN U20 du 27 avril au 18 mai prochain. Le football, encore battu ces derniers mois par des sélections moins bien classées. Le Sili national de Guinée n'a pas le moral. Il traverse en ce moment une bien mauvaise passe. Distancé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Guinée ne sera pas non plus au Maroc pour la prochaine CAN. En l'espace d'un an, Sérou, Guirassy et ses coéquipiers sont passés par toutes les émotions. Et ils ont fait un peu le yo-yo. Tiernoya Diallo.
Qu'elles semblent lointaines les images de liesse dans les rues de Conakry après le bon parcours de la Guinée à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'euphorie a laissé place à la déception suite à des campagnes éliminatoires CAN Coupe du Monde exécrables, désabusées. Les fans ont déjà identifié les responsables de cette mauvaise passe.
Il faut que l'État va se réveiller, ils vont nous aider à construire des stades. En même temps, la fédération a une mauvaise gestion, une très mauvaise gestion. On comprend rien.
Et dans cette optique, le nul contre la Somalie et la défaite face à l'Ouganda lors de la fenêtre internationale de mars sonnent comme la désillusion ultime d'une sélection qui ne fait plus rêver. La presse sportive, elle aussi, ne cache plus son mécontentement, respectivement Amadou Kibola Bangoura et Mohamed Mila Kamara, journaliste.
C'est une déception, honnêtement. Voir l'ossature de l'équipe que nous avons aujourd'hui manquer des rendez-vous aussi importants en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde également, je pense que c'est vraiment une déception.
On s'attendait à une équipe qui pouvait mieux nous faire rêver, mais très malheureusement, on est tombé face aux adversaires de la seconde zone. On se disait, à défaut d'être premier, au moins être derrière l'Algérie.
Quart de finaliste à la dernière CAN, le Sili national connaît un déclassement depuis. Et les perspectives ne sont guère reluisantes. Éliminée dans toutes les catégories inférieures, la Guinée ne compte plus que sur le champ pour regagner le cœur des supporters. Tiernoya Diallo, Conakry, RFI.
RFI, il est 22h48 en temps universel. En Tunisie, lors de la fête de l'Aïd qui marque la fin du Ramadan, la tradition veut que les parents fassent des cadeaux aux enfants, notamment offrent de nouveaux vêtements pour célébrer cette fête religieuse. Or, les prix ont flambé début janvier. Le prix du textile sur le marché local a augmenté de près de 10%. Et malgré une prolongation des soldes d'hiver, beaucoup de Tunisiens ont boudé les grands magasins. La débrouille et la seconde main l'emportent très souvent. C'est Afrique Éco avec Lydia Blaise.
Dans le centre de Tunis, quelques jours avant l'Aïd, Khadija Malij, mère d'une jeune fille de 10 ans, arpente le marché des fripes pour trouver la perle rare, une tenue complète pour son adolescente.
On est aux fripes de Haï El Khadra à Tunis qui sont bien achalandées. Vous voyez, il y a plein d'étals de vêtements et moi je viens pour acheter les vêtements de l'Aïd pour ma fille, mais aussi des tapis, des descentes de lit, du linge de maison. Je viens ici parce que les prix sont beaucoup moins chers.
Les prix, ils sont beaucoup moins chers.
Avec un salaire moyen, son budget est d'environ 200 dinars pour sa fille, soit 60 euros. Mais cette somme couvre à peine le prix d'un vêtement neuf dans les grands magasins.
Surtout avec l'augmentation actuelle, moi ça m'arrange vraiment de venir ici aussi pour trouver des marques. J'ai fait un tour dans des grandes surfaces et 200 dinars ça couvre à peine le prix d'un pantalon. Alors qu'au Frip, je peux prendre plusieurs vêtements pour le même prix.
Plusieurs de bâches, 200 dinars, ta femme.
Et la recherche s'annonce fructueuse pour elle et sa fille.
Elle a commencé dès qu'on est arrivé.
Elle a trouvé un sac, donc tant mieux. Elle a commencé avec les accessoires, il ne reste plus que la tenue. Et moi, je viens aussi pour lui trouver de nouveaux vêtements pour l'école, car les commerçants des fripes saisissent l'occasion de l'Aïd pour sortir un nouvel arrivage en fonction de la saison.
Et pour ceux qui ne veulent pas passer trop de temps à chercher, les dépôts-ventes pullulent à Tunis ces dernières années. À Baby Troc, l'un des premiers à ouvrir il y a 10 ans, la fondatrice Olfa Barkeli gère une grande affluence avant l'Aïd.
Au début, ça m'a surpris de voir que les gens achetaient du deuxième main pour l'Aïd, parce qu'on est habitué à ce que les gens achètent du neuf. Et d'année en année, je voyais que les gens affluaient pour ça. C'est notre mois de travail. Voilà.
La clientèle est aussi à la recherche de marques étrangères ou importées, souvent introuvables en boutique.
Vous pouvez trouver du luxe ici. On peut trouver du Dior et du Dolce & Gabbana. On peut trouver ça à petit prix.
Si cette année, le début du mois a été difficile avec la nouvelle loi sur les chèques qui ne permet plus de faire crédit, la boutique ne désemplit pas à la veille de l'Aïd. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Afrique Éco, un rendez-vous à retrouver également sur notre site internet www.rfi.fr.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
L'ambianceur d'Afrique Soir est déjà avec nous en studio devant son micro pour sa sélection certifiée Afroclub. Bonsoir Hervé.
Et bonsoir Landina, Sylvie,
alias DJ Facemaker. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec la chanteuse ivoirienne Diane D.
Oui, alors il y a 4 D dans son nom, donc on préfère dire Diane D, hein, qui vient de dévoiler l'EP de 8 titres juste un vendredi dans lequel elle explore l'intensité des émotions humaines à travers une fusion subtile de R&B et d'Afrobeat. Au programme, la rencontre, la passion, la trahison et enfin la renaissance. Dans le morceau No Love, Diane D a fait appel à Darko Vibes, figure montante de la scène ghanéenne.
Tu me reproches trop d'ego, moi t'es trop de go. Ma jalousie n'était pas qu'un défaut, bébé dodo. Toi et moi y'avait pas poteau, mec y'a pas photo. J'suis la cerise, le sugar, du beau flot, tout mon bébé dodo. Oh oh. Comme les autres fois c'est terminé. On dit que l'amour a expiré. J'ai appelé mon médecin, m'a dit que ça y a pas son comprimé. Je crois que le cœur a périmé. Car trop de fois j'ai pardonné. Oui j'ai trop donné. Oui j'ai trop donné. Non non.
Alors après Diane D, place à présent au jeune rappeur tchadien Kezi.
Oui, Kezi, rappeur en pleine ascension et actif depuis 2023, il est parti en croisade pour percer en solo avec l'aide de son label Volcan Prod. Son titre Ato Banwa est devenu viral sur les réseaux sociaux et je vous propose de l'écouter maintenant.
Je suis tchadien dans la peau, dans la mentalité. Difficile à accepter, je suis comme la vérité. Aujourd'hui tout ce que j'ai pas démérité. Je dois juste aller chercher un. Je me pose un tas de questions sur comment rentabiliser ma passion. Obligé, je dois faire la fierté de la nation. Même si je suis frustré, je dois garder la médaille. C'est moi je vais ramener des médailles. C'est au panoir, c'est au panoir. Et tout il laisse berelé à ton panoir, à ton panoir. Et tout ton rhum de laisser à ton panoir, ton panoir. Il a ma terre, mais n'a il de tombe.
Allez Hervé, on va quitter le Tchad à présent pour aller au Royaume-Uni.
Oui, on va retrouver Craig David et Tiwa Savage en duo sur le titre Commitment, une chanson afro-pop et R&B dans laquelle Craig David et Tiwa Savage décrivent les difficultés d'une relation intime harmonieuse au quotidien. Un titre qui fait suite à la tournée 7 Days Commitment Tour qui a célébré les 25 ans de l'album Born to Do It de Craig David. Every time I tell the truth, you don't believe it. Don't tell me I don't know about commitment. When I was the only one to show you different, it don't be the same no more. I can see it don't be that way no more. Yeah, you're running around like you don't have feelings anymore. Yeah. Cool if you well know that if you leave then say no more, no more, no more. Cause when you go left, I just go right. But you still want it all night. We just play chess when we collide. Think it's right about time I show you that.
Alors ça sent les vacances, hein, sur les filles d'Afrique Soir. Vous allez nous gâter ce soir hein, avec beaucoup de musique variée. Place maintenant à la séquence rétro. On a annoncé une surprise hein, ce jeudi et vous avez choisi la reine Céline Dion.
Oui, Céline Dion qui célèbre les 30 ans de l'album francophone le plus vendu de l'histoire, 2. Souvenez-vous, le 28 mars 95, on chantait tous « Pour que tu m'aimes encore », réalisé et écrit par Jean-Jacques Goldman, certifié disque de diamant depuis. Une œuvre culte de référence et de premier plan pour plusieurs générations.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces doux appels, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents. D'autres dansent des heures.
Toujours aussi efficace, vous la connaissez par cœur.
Par cœur. Hein.
Et c'est en RDC que nous allons conclure cet Afro Club du jour, Hervé.
Oui, à Goma plus précisément, où le jeune Joe Like a invité Hiro au mois de janvier dernier pour le remix du titre Njovile. Projet ambitieux sur lequel on retrouve aussi Inos Bish. Le titre Njovile est l'un des rares morceaux de Goma à avoir dépassé le million de vues sur YouTube. Un exploit qui méritait bien un remix.
C'est avec Jula Ekiro et Inosby que se referment les portes de l'Afro Club. Je rappelle que le podcast de l'émission est sur l'application RFI Pure Radio.
Également disponible à tout moment sur notre site internet rfi.fr dans l'onglet thématique musique. L'Afro Club revient de lundi prochain et restez bien à l'écoute de RFI en compagnie de Sylvie Berruel.
Et d'Olivier Roux qui est à la réalisation ce soir. Et merci à toute l'équipe d'Afrique Soir, Alexis Guilleux, Guillaume Bedran, Willy Diallo d'avoir été avec nous ce soir. J'en profite pour saluer un fidèle auditeur toujours sur la page Facebook, à l'écoute qui en perd pas une miette, Junior Bokama en ligne de Kinshasa qui écoute sur l'application RFI. Merci à vous Junior pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info revient dans un peu plus d'une minute sur la radio du monde. Bonne fin de soirée.
Priorité santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans Question de femmes, on attend vos témoignages sur l'endométriose. Quand faut-il consulter? Quels sont les traitements possibles? On vous répond sans tabou.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.